Sans attendre, on passe la parole à Myriam Segère qui nous parle de la psychanalyse en maternité, la maternité Béclair, j'imagine.
Bonjour, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. En 1999, ici même, j'ai déjà parlé de ma pratique en maternité en tant que psychanalyste auprès des nouveau-nés et de leurs parents. Aujourd'hui, c'est avec une décennie de plus que je réfléchis à mon parcours et en quoi la pensée de Françoise Dolto fut fondatrice. Il m'arrive de me dire, ce qu'elle a dit, je le fais. En effet, j'ai rien inventé. J'ai simplement appliqué ce qu'elle préconisait, à savoir parler au bébé dès la naissance. Pour cela, il m'a fallu imaginer et créer les conditions qui me le permettent. De cette place privilégiée en maternité, j'ai pu observer, constater, réfléchir, militer, transmettre. En fondant l'association La cause des bébés, j'ai pu partager avec d'autres professionnels cette transmission. Donner ce que j'avais reçu par le biais de formations, de conférences, de colloques, de séminaires, d'enseignements universitaires, de publications, en France mais aussi à l'étranger. En plus, j'ai eu la chance d'être parmi les quelques analystes qu'elle a accueillis à la consultation qu'elle réservait aux nourrissons placés à la pouponnière Paul Manchon à Antony. J'y ai assisté durant les deux dernières années de sa vie. Elle souffrait alors d'une fibrose pulmonaire et à la fin travaillait avec son appareil à oxygène. Elle expliquait au petit que c'était ses lunettes de nez, qu'elle avait des lunettes pour les yeux, ça c'était ses lunettes pour le nez. Donc, après ça, ils oubliaient. Après sa mort, j'ai accompagné Caroline Eliachef, qui a poursuivi cette consultation au CMP d'Issy-les-Moulineaux, CMP où j'ai également commencé à recevoir des enfants de l'aide sociale à l'enfance placés en famille d'accueil. Souvent, Dolto a dit, si quelqu'un avait pu lui parler dès sa naissance, à lui, à ses parents, les symptômes ne seraient pas apparus. En écoutant en consultation les bébés abandonnés en souffrance, j'ai été conduite à me demander pourquoi, pour les recevoir, nous attendions l'apparition des symptômes dès lors que nous avions décidé de les entendre comme une souffrance de parole. Ne pouvions-nous pas intervenir en amont, avant leur apparition, et de ce fait ouvrir le champ de la prévention ? Prévention, le gros mot était lâché. J'ai alors souhaité pratiquer avec des bébés les plus jeunes possibles. Et c'est pour cela que j'ai intégré la maternité de l'hôpital Béclair, dans le service de René Friedman, où j'exerce depuis 1990. Je pratique parallèlement en cabinet à Montrouge, mais avec des analysants de tous les âges. Et c'est là, dans mon cabinet, que je reçois depuis plusieurs années les bébés adressés par la pouponnière Paul Manchon, située maintenant au Plessis Robinson. Et dans cette pouponnière, le travail de Françoise Dolto est resté vivant. Ça fait un long trajet. Un jour, je recevais Catherine Dolto à la maternité. Et dans l'ascenseur, elle m'a dit « Finalement, je devrais te donner une partie de mon héritage. » Sur le coup, j'étais très surprise, n'ayant jamais eu conscience d'une position d'héritière, tout au plus, et à l'époque pas tant que ça, de celle de disciple. Maintenant, j'ai conscience de cette filiation et de l'importance de ce qu'elle véhicule. La reconnaissance et le respect du sujet humain dès sa conception au travers du langage. Lorsque j'ai débuté à la maternité, des questions émergeaient. Est-ce que le travail avec les bébés tel que je l'avais vu pratiquer par Françoise Dolto était transposable à des nouveau-nés ? Était-il assimilable à celui avec les bébés plus grands, ceux à qui on avait déjà parlé et qui avaient entendu parler autour d'eux ? Quel rôle a la parole pour un nouveau-né ? La pratique psychanalytique exercée ensuite de couche se heurte avant tout au fonctionnement hospitalier qui fait sortir l'analyste de son cabinet. Il est alors difficile, mais absolument indispensable, je crois, de créer un cadre permettant l'expression d'une demande par les patients. Pour cela, il m'a été nécessaire d'imaginer un protocole applicable à une collaboration étroite entre l'analyste et l'équipe soignante. La démarche d'aller à l'écoute peut être épargnée à un analyste à l'hôpital par le biais d'une médiation du personnel hospitalier. Leur fonction d'intermédiaire constitue une dimension transversale d'intelligence et de sensibilité au contexte de chaque naissance qui permet d'éviter à l'analyste d'être en position de demandeur, voire de prescripteur. La médiation des équipes médicales fait apparaître le besoin de parole, d'une part, d'autre part la grammaire de la situation, son contexte. À l'hôpital, la parole est souvent enfermée dans le système médical. Il arrive parfois qu'elle y reste prisonnière et que le système en question en cautionne l'immobilité. C'est à partir du contact avec les patients, des symptômes cliniques comme une pathologie somatique, pour les bébés respiratoires ou digestives, ou fonctionnelles, sommeil, appétit, pleurs, ou encore des données codées comme une courbe de poids anormale d'un enfant, ça peut être aussi un baby blues aggravé chez une mère. À partir de tout ça, les soignants peuvent se rendre sensibles et proposer une consultation et retransmettre la demande à l'analyste. C'est la demande de la mère, du père ou du bébé, alors, et non pas celle de l'équipe soignante, sous la forme d'une prescription médicale, je vous envoie la psy. J'ai cherché à éviter ça qu'on voit trop souvent à l'hôpital. Tout analyste pratiquant avec les enfants cherche à mettre du sens entre le discours de l'enfant, les symptômes rapportés, le comportement pendant la séance, et celui de ses parents ou à défaut celui de la personne qui lui donne des soins et est en mesure de témoigner de son histoire. Or, la période des suites de couches réalise une condition très riche pour une intervention. Au cours du postpartum, la majorité des femmes présentent ce qu'on appelle le baby blues, ou dépression précoce du postpartum. L'étiologie, qui semble échapper à celle qui en souffre, est à mettre en relation avec la reconnaissance mutuelle de l'enfant et de sa mère. Vers le troisième jour, l'enfant est là. Encore faut-il que cette présence s'inscrive matériellement et socialement. Ce réel, les psychanalystes depuis Freud l'appellent l'après-coup. Ici, c'est celui de l'accouchement qui s'incarne dans un corps d'enfant. Aux parents d'en mesurer l'enjeu dans la parole, dans l'ordre symbolique du langage. Du point de vue de l'inconscient de la mère, le baby blues peut s'entendre comme une réactualisation des deuils et des séparations non ou mal symbolisées de son histoire. Cela se passe comme si les portes de tous ces placards contenant des cadavres s'ouvraient simultanément. La charge affective liée à ces coupures, à ces non-dits les plus souvent inconscients, provoque une sorte d'aspiration psychique à l'endroit de l'enfant qui vient y faire sa place comme être de langage. C'est d'ailleurs à cette période du troisième, quatrième jour qu'on dit communément que le nouveau-né commence à s'exprimer. On voit bien les péricultrices disent « Oh, il est tellement sage, mon bébé, il est très gentil. » Et puis elle sort de la pièce et dit « Il va pas tarder à lui en faire voir. » Dès lors, le bébé peut entrer dans son historicité, car l'histoire est toujours derrière nous. Pour qu'un humain puisse se penser humain, il faut que cette coupure, cette castration, dit ombilicale, soit opérante dans le symbolique. On peut utiliser les concepts d'histoire, de préhistoire, voire de proto-histoire, pour décrire une parole qui se situe en dehors de l'enfant et le dépasse. Sa naissance vient donner corps à cette histoire, dans la mesure où l'enfant la reçoit et l'accepte avec ses aléas. Mais en même temps, on peut dire qu'il s'en éloigne, car il la parle, il la pense. C'est une dimension spécifique de l'humain. Les 3 ou 4 jours consécutifs à l'accouchement réalisent pour le nouveau-né une phase de transition entre sa vie prénatale et son avènement symbolique. C'est une période où il se retrouve dans l'entre-deux de sa naissance et de sa participation active au monde aérien devenu sien. J'ai appelé cette période les limbes. C'est bien en plus, parce que comme les limbes, ça ne marche plus du côté des catholiques, eh bien, je le récupère. C'est un temps où l'enfant est comme en attente des paroles qui vont porter sens à sa vie. Il me semble que c'est là, à proprement parler, le moment symbolique de la castration ombilicale décrite par Françoise Dolto, qui intervient en fait, selon ce que j'observe, dans un deuxième temps par rapport à la naissance. Si on se réfère à Jean-Pierre Winter, la séparation de la naissance doit se penser en termes de coupure entre ce qui enveloppe le bébé, soit une partie de lui-même, et lui-même. Cette partition est également valable d'un point de vue embryologique. La séparation est interne à l'unité de l'œuf. Ce dont le bébé se sépare, c'est d'abord du placenta et des annexes, formés à partir du tissu embryonnaire, et qui fonctionneront comme reste. Ce sont les fondements biologiques aux premières castrations naturelles, qui ne deviendront symboligènes que dans l'après-coup de la naissance, au moment, il me semble, de la traversée du baby blues chez la mère, puis progressivement avec les différentes castrations, au décours desquelles se constituera l'objet, comme réponse imaginaire, déliée de la réalité à l'insupportable des castrations. Chez le fœtus, on peut dire que les questions du désir et du besoin sont primitivement confondues. Leur distinction ne se fera qu'après la naissance, sous l'effet de la parole et du langage. La psychanalyse opère à partir de la notion freudienne d'après-coup. Lorsque nous parlons de séparation, c'est le plus souvent à partir de la lecture de l'Œdipe. L'Œdipe est la structure sur laquelle vont venir se heurter toutes les séparations ratées et servira dans l'après-coup de révélateur à ce qui a échoué dans les principales castrations à fonction symboligène, parmi lesquelles il faut inclure la castration ombilicale. Avec la caution plus tard de l'amnésie infantile, elle permet d'inscrire dans l'inconscient notre mémoire anténatale et postnatale précoce, dont les engrammes pourront se faire entendre tout au long de la vie. Alors pour vous détendre, je vais vous raconter une petite histoire. Et puis après, je passerai à quelques citations de travaux scientifiques qui me paraissent importants. Alors c'est l'histoire de la famillité. J'arrive à la maternité, et puis l'auxiliaire de puériculture, la sage-femme, me raconte Nelson, le petit Nelson T, avait pleuré toute la journée. Et ses hurlements avaient vraiment inquiété. L'auxiliaire de puériculture me dit « J'arrive vraiment pas à le calmer, la mère non plus. » Et elle avait conseillé à la mère d'accepter ma visite, parce qu'elle n'arrivait pas à le consoler. Quand je rentre dans la chambre, Nelson est au sein, et sa mère est assise dans un fauteuil. Elle m'explique que Nelson ne cesse de crier, qu'elle ne parvient pas à le calmer, et elle raconte que Nelson est en fait son second fils, parce qu'il y a 3 ans, elle a accouché d'un autre garçon, Kevin. Au 3e jour de Kevin, on a diagnostiqué une trisomie 21, et ça a été un choc redoutable. Mais au début, Madame T a été décidée à assumer. C'est le père, en fait, qui d'emblée a envisagé l'adoption de ce bébé. L'enfant est provisoirement placé en pouponnière en attendant la décision de ses parents, qui n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils allaient faire. Mais Monsieur T avait dit à son épouse qu'il respecterait son choix, quel qu'il soit. Au bout de 2 mois, ils abandonnent Kevin. Très vite, le couple veut un autre enfant. Cependant, la grossesse ne survient pas et l'infécondité persiste de longs mois. Ce n'est que lorsqu'ils apprennent l'adoption de Kevin que Madame T devient à nouveau enceinte. Pendant le récit, Nelson s'agite, cesse de téter. Je parle alors à Nelson. Je lui dis « Nelson, t'es né un lundi. Ça rappelle à tes parents la naissance de ton grand frère, Kevin, qui est également né un lundi. Mais tu n'es pas ton frère. Kevin était différent, il avait une trisomie 21. C'est la raison pour laquelle tes parents ne sont pas sentis en mesure de l'élever et ont préféré qu'il lui soit trouvé une autre famille qui se sentait en mesure de bien s'en occuper. Toi, tu n'es pas trisomique et tes parents savent qu'ils peuvent te garder. Ils ne vont pas t'abandonner. Tu peux cesser d'avoir peur. » Madame T raconte alors que son mari est aussi adopté. Il fut adopté à quelques mois, mais il ne sait pas pourquoi il a été adopté. Parce que son père a brûlé tous les papiers concernant son adoption et que le père en question souffre maintenant d'une grave détérioration mentale qui rend toute investigation impossible. Nelson se remet à téter, sereinement cette fois. Les cris n'ont plus recommencé. Je me demande si Monsieur T, par l'abandon de Kevin, n'a pas cherché à légitimer sa propre histoire. On peut aussi se demander si Nelson ne fêtait pas l'annonce de la trisomie et de ses conséquences. Au 3e jour, pris dans les souvenirs de ses parents d'une séparation encore douloureuse, il incarne la conception qui avait eu pour lourde mission de réparer cette blessure. Blessure d'autant plus lourde qu'elle mettait en scène le scénario d'une répétition d'abandon sur 2 générations. Ça, c'était pour... J'ai choisi une observation brève, parce que pas beaucoup de temps de parole, mais c'est le type de travail qu'on fait en maternité. Françoise Dolto avait toujours affirmé que la science viendrait confirmer les intuitions des psychanalystes. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Sa pensée est non seulement toujours actuelle, mais se reflète de plus en plus dans les résultats de nombreuses recherches scientifiques qui viennent la confirmer. D'après Marie-Christine Lasnik, psychanalyste, Lacan, influencé par les linguistes, pensait que les premières productions vocales du bébé étaient uniquement le fruit du hasard, et ce serait la raison pour laquelle il limita son intérêt pour les tout-petits. Pourtant, Françoise Dolto, dès 1956, au Congrès de Rome, répondait à Lacan. Alors je la cite. entre guillemets. Qui d'entre vous a pu voir un bébé de quelques jours après son biberon ? Repu, le corps en paix, il manifeste son contentement par des bruitements modulés. Avez-vous remarqué les arrêts scandés de ces bruitements modulés ? Et si la mère, alors, imitant le même son, le lui rend en écho, l'enfant reprend, s'arrête de nouveau, écoute, et cet échange, ce langage, cette conversation entre ces deux êtres, dont le plus jeune est peut-être celui qui donne le plus et qui en a le plus à dire, c'est un langage au sens plein du terme, c'est un langage émotionnel, un langage profond, créatif et structurant, qui permet à l'enfant de se développer, non pas en tube digestif, mais en fils d'homme. De nombreux scientifiques apportent progressivement la preuve de ces dires, ou en tout cas soutiennent cette parole. Je vais en citer quelques-uns. Colwyn Trevarten, d'abord, qui travaille à l'Université d'Édimbourg avec toute une équipe, et a beaucoup étudié la proto-conversation et les tours de parole chez les nourrissons, même chez les grands prématurés. Ses recherches s'orientent maintenant vers la musicalité, le rythme, l'intonation, la narrativité, etc. Pour lui et ses collaborateurs, le bébé est acteur. Les travaux actuels de Marie-Claire Busnel, chercheure en physiologie fœtale et périnatale, tendent à prouver que si le bébé est sensible à la voix maternelle, surtout lorsqu'elle s'adresse à lui, il réagit aussi en fonction de ce qu'elle lui dit. En d'autres termes, il serait sensible au contenu sémantique qu'il concerne lorsqu'ils lui sont directement adressés, et ceci semble également valable lorsque la mère s'adresse en pensée au fœtus qu'elle porte. Cela n'aurait sûrement pas étonné Françoise Dolto. Alessandra Piontelli et Romana Negri, psychanalystes et chercheuses italiennes, ont observé le comportement des fœtus à l'échographie, régulièrement pendant la grossesse, en tenant compte au fur et à mesure du contexte socio-familial, médical et affectif dans lequel la grossesse se déroule. Puis elles ont observé, selon la méthode préconisée par Esther Bick, les bébés après leur naissance pendant 2 à 5 années. Selon elle, la constatation de la continuité anté- et postnatale et la mémorisation de la vie fœtale sont ainsi prouvées, de même que l'origine anténatale de la personnalité. Elle constate également la survenue de l'amnésie infantile en période oedipienne, qui vient refouler au niveau de l'inconscient tous les souvenirs de la vie périnatale. Le nouveau-né comprend-il les mots ? Françoise Dolto l'a dit. On n'en sait rien, moi je ne le pense pas. De toute façon, pas au sens où nous les comprenons, nous. On pourrait plutôt dire qu'il les prend avec lui. Il en mémorise peut-être des caractères saillants, nous raconte Jean-Paul Tassin, neurobiologiste. D'autres le nommeraient signifiant. Dans des bassins d'attracteurs, qu'il pourrait modifier au fur et à mesure de l'apparition du traitement cognitif qui viendra suppléer au traitement analogique initial de l'information. Il me semble cependant quelque peu réducteur de dire, comme certains l'affirment, que le nourrisson ne mémorise que la prosodie et l'intonation. N'est-ce pas plutôt parce qu'on n'a pas encore trouvé comment décrire son fonctionnement en détail ? Des linguistes, comme Bénédicte de Boisson-Bardy, psycholinguistes, défendent maintenant la thèse d'une forme d'apprentissage anténatal de la langue maternelle, puis postnatal à travers la prosodie du mamanais. Isabelle Rapin, neuropédiatre au Collège Albert Einstein de New York, avait émis l'hypothèse que la structure fine du cerveau commence in utero et dépend en grande partie des influences sensorielles du milieu extérieur qui persisteront pendant toute la vie. Elles détermineront quels neurones et connexions seront favorisées ou supprimées. De plus, elle explique que les composantes du langage sont dissociables et modulaires, que la phonologie et la prosodie n'ont pas la même localisation cérébrale et ne sont pas soumises à la même chronologie du développement. Ainsi, le milieu extérieur modèle le cerveau, donc son fonctionnement et ses possibilités de mémorisation. Ces travaux rejoignent ceux des épigénéticiens, dont les recherches actuelles nous montrent de plus en plus précisément que la transmission ne se réduit pas à une simple histoire figée de chromosomes, mais que ce que nous vivons en fonction du milieu extérieur laisse non seulement des traces au sein de nos cellules, mais que ces traces se transmettent aux générations suivantes. C'est parce qu'on parle à l'enfant autour de lui qu'il va parler lui-même. Le fœtus est déjà capable de discerner certaines syllabes et d'entrer dans un mode de dialogue avec les autres. C'est aussi ce que constatent les aptothérapeutes qui décrivent le fœtus déjà désirant et acteur, avide de communiquer. je suis obligée à regret d'interrompre mon inventaire de ces recherches passionnantes et de ce fait en zapper de nombreuses. En tant que psychanalyste, nous pouvons donc penser que les paroles qui sont prononcées à l'égard de l'enfant sont censées entrer en résonance avec certaines informations emmagasinées pendant sa vie fœtale sous forme de perceptions sensorielles. Elles sont cependant liées à des événements et à une temporalité souvent chargée d'un sens qui peut être porté au travers de plusieurs générations. Les mots vont venir nouer ce sens aux perceptions mémorisées et en permettre la représentation. Au cas échéant, cela peut parfois désorganiser le corps et ses fonctions. La liste des possibilités expressives des bébés est longue. Souvent, heureusement, l'approche médicale permet un soulagement immédiat et à court terme. Mais seule, elle n'aborde pas une souffrance qui peut être entendue dans une dynamique contextuelle familiale et une symbolique analytique, une souffrance humaine qu'il est possible d'écouter dès le début de la vie. Je vous remercie.
Thank you.